au niveau des sourcils et du cuir chevelu et sur les ailes du nez. Il avait aussi des plaques de candidose dans la bouche qui donnaient à sa langue un aspect blanchâtre. À mesure que cette affection se propageait dans sa gorge et tapissait son œsophage, il avait du mal à avaler et ses lèvres fissurées présentaient des croûtes blanches. À la fin, il pouvait à peine respirer. Mais il refusa le respirateur artificiel. Il voulait mourir avec Flore, tous deux ensemble et chez eux, pas à l'hôpital. Durant ces derniers jours, il fut alimenté par un cathéter de Hickman. Comme la candidose l'empêchait d'avaler, il mourait littéralement de faim et les médecins avaient expliqué à Juan Diego qu'il était indispensable de nourrir par voie intraveineuse les patients incapables de le faire par eux-mêmes. Celui-ci installa donc Mrs. Dodge, une infirmière d'âge mûr, dans sa chambre de jeune homme au premier étage, avec pour fonction principale de s'occuper du cathéter et de le remplir d'une solution d'héparine pour éviter la coagulation. Le cathéter de Hickman, dont l'embout avait été inséré sous la clavicule d'Edward Banshaw, pendait sur le côté droit de sa poitrine. Le tube passait sous la peau, à quelques centimètres au-dessus du téton, et pénétrait dans la veine subclavière. Juan Diego n'arrivait pas à s'habituer à ce dispositif. Il le décrirait plus tard dans un de ses romans où nombre de ses personnages mouraient du sida, certains d'entre eux atteints des mêmes maladies opportunistes que celles dont avaient souffert ses parents adoptifs. Pour autant, ces victimes du sida ne ressemblaient en rien à l'homme de l'Iowa et à la loca, la bandida, comme Flore s'était surnommée. Il s'était inspiré de ce qui leur était arrivé, mais jamais il n'écrivit un seul mot sur les êtres qu'ils étaient. Autodidacte, le lecteur de la décharge avait appris tout seul à faire fonctionner son imagination. Et cet aspect de son initiation à la littérature se retrouvait dans sa conviction qu'un écrivain crée ses personnages et construit son récit. Il ne suffit pas de raconter l'histoire des gens qu'on a connus, ou la sienne propre, pour qu'un texte mérite le nom de roman. Quand Juan Diego animait des ateliers d'écriture, jamais, au grand jamais, il n'enseignait à ses élèves une façon d'écrire. Il ne leur aurait pas davantage suggéré d'imiter la sienne propre, n'ayant rien d'un prosélyte. Pour lui, le problème venait du fait que les écrivains en herbe cherchaient une méthode. Ils sont tentés de s'inspirer de tel ou tel procédé d'écriture et en viennent à croire qu'il n'existe qu'une seule manière de concevoir un récit. Écrivez ce que vous savez, laissez parler votre imagination, tout est affaire de langage. Clark French en était un exemple caractéristique. Certains étudiants le restent toute leur vie. Ils cherchent et trouvent des généralisations qui leur permettent de vivre. Ils entendent que leur façon d'écrire devienne une sorte de code universel gravé dans le marbre. Les uns clament que construire une fiction à partir de données autobiographiques ne donne qu'un tissu de fadaise. Les autres, qu'imaginer, c'est tricher. Clark plaçait sans nuance Juan Diego dans le camp des antibiographes. Il le décrétait tenant de l'imaginaire, conteur et non mémorialiste. La vérité, c'est que sur le fond, Juan Diego n'avait jamais voulu trancher. Clark faisait de la création littéraire un véritable champ de bataille. Lui, au contraire, avait essayé de déminer le débat. Il voulait parler de la littérature qu'il aimait, des auteurs qui lui avaient donné envie d'écrire, non pour les prendre pour modèle, mais parce qu'il avait adoré l'ensemble de leur œuvre. La bibliothèque des enfants perdus contenait très peu de littérature anglaise, ce qui n'étonna personne. C'était surtout des ouvrages datant du XIXe, rien de plus récent. Des romans que le père Alfonso et le père Octavio auraient bien condamnés au bûcher de la décharge, et ceux, essentiels, que frère Pépé et Edward Banshaw avaient réussi à sauver, et qui constituaient une petite collection romanesque. Ces romans avaient inspiré la vocation littéraire de Juan Diego. L'injustice flagrante de la vie des chiens l'avait préparé à la lettre écarlate de Hawthorne. Ces matrones confites en dévotion, qui se gargarisaient de ce qu'elles infligeaient à Esther, si on les laissait faire, marquer son front au fer rouge au lieu de marquer ses vêtements, voire la tuer, lui donnait un avant-goût des relents de puritanisme américain qu'il devait découvrir dès son arrivée dans l'Iowa. Dans Moby Dick, de Melville, et en particulier dans le détail du cercueil faisant office de bouée de sauvetage, de Kikweg, Juan Diego découvrira l'importance stratégique du présage pour le conteur. Car on n'échappe pas à son destin, comme le montre le maire de Casterbridge, de Thomas Hardy. Dans le premier chapitre, Michael Henchard vend sa femme et sa fille à un marin un jour de beuverie. Il ne parvient jamais à expier ce forfait. Dans son testament, il demande que personne jamais ne se souvienne de lui. Il y a mieux comme histoire de rédemption. Clark French détestait Hardy. Et puis, il y avait Dickens. Juan Diego connaissait par cœur le chapitre de David Copperfield intitulé « La tempête ». À la fin, le corps de Steerforth est rejeté par la mer et Copperfield se trouve face à la dépouille de l'idole de son enfance, son perfide tourmenteur, l'exemple même de l'aîné rencontré à l'école et persécuteur désigné. Il était inutile d'en dire plus sur le corps de Steerforth sur la plage, où il gisait parmi les ruines de la demeure qu'il avait saccagée. Mais Dickens, fidèle à lui-même, ajoute « Je le vis couché, la tête appuyée sur son bras comme je l'avais vu si souvent dans le dortoir de Salem House. » Qu'aurais-je pu apprendre de plus sur l'écriture que ce que ces quatre-là m'ont enseigné ? Demandait Juan Diego à ses étudiants, dont Clark French. Et quand il leur présentait Hawthorne, Melville, Hardy et Dickens, les quatre en question, ceux qu'il appelait ses maîtres, il ne manquait pas de citer aussi Shakespeare. Seigneur Eduardo le lui avait fait remarquer, avant même que le premier roman ait été écrit, Shakespeare avait compris et apprécié à sa juste valeur l'importance de l'intrigue. Il ne fallait surtout pas prononcer le nom de Shakespeare devant Clark French. Adepte inconditionnel de l'imagination comme seul principe créateur, Clark s'était autopromu garde du corps du barde d'Avon et vouait aux gémonies ceux qui lui contestaient la paternité de ses œuvres. Cette évocation de Shakespeare ramenait Juan Diego à Edward Banshaw, à Flore et à la fin de leur vie. En 89 et pendant une bonne partie de l'année 90, ils étaient encore assez vaillants pour porter des objets, monter les escaliers. Flore conduisait encore. Ils se rendaient donc par leurs propres moyens au premier étage de la clinique de la Boyd Tower, à moins de 500 mètres de la maison de Melrose Avenue. Quand la situation empira, Juan Diego ou Mrs. Dodge les accompagna. Flore pouvait encore marcher, mais Seigneur Eduardo ne se déplaçait plus qu'en chaise roulante. Au début et au milieu des années 90, avant que le taux de mortalité ne chute avec l'apparition de nouveaux médicaments et que la quantité de séropositifs soignés à la clinique de virologie ne commence, elle, à augmenter, le nombre de patients s'était stabilisé aux alentours de 200 par an. Beaucoup de malades étaient assis sur les genoux de leurs partenaires dans la salle d'attente. On y parlait parfois des bars gays et des spectacles de drag queen, et on y voyait de temps à autre des travestis flamboyants. Flamboyant à l'échelle de l'Iowa. Ce n'était plus le cas de Flore. Elle avait perdu presque tout ce qui faisait sa féminité d'antan. Elle continuait à s'habiller en femme, mais sa mise était très discrète. Elle était consciente que ses charmes avaient fané, sauf dans le regard enamouré de Seigneur Eduardo. Il se tenait la main dans la salle d'attente. Pour autant que Juan Diego s'en souvenait, c'était le seul endroit où il s'autorisait cette démonstration. L'un des patients venait d'une famille mennonite qui l'avait renié, mais le revendiquerait plus tard. Coiffé d'un Stetson rose et chaussé de bottes de cow-boy, il apportait des légumes de son jardin et les proposait au personnel de la clinique. Un jour que Mrs. Dodge avait raccompagné Flore et Edward Banshaw, Juan Diego était absent, Flore, qui portait toujours son bandana en public, interpella le jeune jardinier au Stetson rose. « Tu sais quoi, cow-boy ? Avec deux chevaux, toi et moi, on a la dégaine pour attaquer un train ou dévaliser une banque. » À en croire Mrs. Dodge, toute la salle d'attente avait éclaté de rire. Et le Mennonite avait joué le jeu. « Je connais bien North Liberty en banlieue, » avait-il répliqué. « Il y a une bibliothèque facile à braquer. Tu vois où c'est ?»«
Pas du tout, » répondit Flore. « Et j'en ai rien à foutre de braquer une bibliothèque, vu que je lis pas. »
C'était vrai, Flore ne lisait pas. Son vocabulaire était très affûté, elle savait écouter,
mais elle n'avait pas perdu son accent mexicain après plus de 20 ans passés aux États-Unis et elle ne lisait jamais. Edward Bonshaw ou Juan Diego lui faisaient